Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue au Journal des Régions. D'abord les titres. Célébration ce jour de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Une série d'activités est en cours dans la région de l'extrême nord en vue de vulgariser les interventions menées au profit des communautés vulnérables. Et dans la région de l'Adamawa, c'est l'engagement humanitaire qui reste perceptible à travers le soutien des élites aux réfugiés. Projet de développement de la dynamique des filles de Mahane-Mezam dans le sud. Bientôt, une salle de fête de 500 places à Eboulova en leur nom. Une quête de 100 millions de francs CFA vient d'être engagée pour la réalisation du dit projet. C'était lors de l'Assemblée générale des filles Yemvang, regroupée au sein de l'association OTEM 3. Le film de la rencontre dans le JDR. Yaoundé plongé dans l'insalubrité, les urines en plein air deviennent un fléau. Les habitants, dont les femmes pour la plupart, se soulagent sans retenue dans les rues. Une situation sanitaire alarmante qui nécessite une action urgente. Et puis le matango, vent de palme qui fait recette à Douala dans le littoral. Découverte d'un marché en plein essor. Provenance, composition et clientèle, les secrets d'un nectar mousseux qui séduit tous les goûts. Le JDR explore tout à l'heure le phénomène matango, symbole de la convivialité et de la tradition à Douala. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Journal des Régions. À l'ouverture, parlons de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, l'événement qui se célèbre ce 19 août. Dans l'extrême nord, région présentée comme terre d'accueil des organisations humanitaires, l'événement sera marqué par une série d'activités pour mettre en lumière les interventions menées au profit des communautés vulnérables. À l'initiative du Haut Commissariat des Nations Unies, les jeunes de la ville de Maroua viennent d'être édifiés sur l'action humanitaire. Voici les détails avec Adamou Moussa de TV Extrême Nord.
Dans l'extrême nord, où se déploient au quotidien les agents du système des Nations Unies et autres organisations, la maîtrise de l'environnement humanitaire apparaît comme une nécessité pour les jeunes en quête d'une opportunité d'emploi. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui a ouvert ses portes pour une rencontre axée sur ses missions, a permis à ses vacanciers d'être édifié sur les missions du HCR.
Entretien avec la chef du bureau HCR Maroua m'a permis de connaître certaines que je ne connaissais pas, que ce soit dans l'humanitaire ou dans les actions que mène HCR dans la région de l'extrême nord, à savoir les réfugiés, les déplacés internes, les apatrides, les rapatriés. Côté de cela, j'ai également appris qu'en dehors de la protection des réfugiés,
j'ai appris que c'est une organisation assez vaste et elle est constituée de plusieurs sous-organisations qui s'occupe d'une des tâches précises. J'ai aussi appris que parmi les nécessités qu'ils aident, ils sont divisés en plusieurs catégories.
Aux côtés des réfugiés et autres couches vulnérables, depuis 2013 dans l'extrême nord, le HCR voit en cette formation offerte aux jeunes de CRTV Extrême Nord une opportunité pour mieux se faire connaître auprès du public. Kimberly Robertson, chef de la sous-délégation du HCR à Maroua.
On a toujours apprécié de parler avec des gens qui sont jeunes, qui sont motivés, qui veulent aller devant dans leur vie. Je pense que c'est vraiment une expérience de nous sommes qui sont plus âgés. C'est vraiment une chance rare de la partager, notre perspective aussi, des choses un petit peu qu'on avait vécues aussi, d'essayer de les motiver. Les jeunes, le futur, il faut proposer d'aller le plus loin, de rêver grand comme c'est prévu. Et c'est aussi important pour nous, ça nous remotiver un petit peu aussi dans notre travail.
L'activité s'inscrit dans le cadre de la mission de clôture des émissions de vacances à la station régionale CRTV Extrême Nord. Maroua, Adamou Moussa, CRTV.
Et dans la région de l'Adamawa, cette célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire rend ainsi hommage à ceux qui font face aux dangers et à l'adversité pour aider leurs prochains. Un engagement humanitaire perceptible où l'on s'approprie également cette valeur avec en parallèle le soutien des populations hôtes aux réfugiés qui vivent dans cette partie du pays. Voici le reportage de Oumar Oukadili de CRTV Adamawa.
En cette journée mondiale de l'aide humanitaire, les populations dans l'Adamawa ont chacune sa perception de ce qu'il en est.
De venir en aide des nécessités. Tout le monde dans cette société n'a pas l'avantage que les autres ont.
Tout être humain a besoin ou bien a droit quand même à tenir un coup de main à son prochain.
Par-dessus tout, de manière générale, la célébration met en lumière les bénévoles à l'instar des secouristes.
Venir en aide à n'importe qui, que ce soit un inconnu ou un proche, à des personnes dans le besoin, parce que nous rencontrons des difficultés chaque jour. Et visiblement, les personnes civiles ne sont pas en mesure d'aider. Ils utilisent les mauvaises méthodes en ce qui concerne le secourisme et autres, ce qui entraîne souvent des blessés ou la mort des personnes.
La région, avec ses deux camps de réfugiés, notamment en Gambe et à Borgop, dans le département du Mbéré, l'aide des communautés haute envers cette population étrangère, pour la plupart issue de la République centrafricaine, est ici assez manifeste.
Comme nous vivons en communauté, nous les aidons avec des appris et même en leur donnant des parcelles de terre afin qu'ils puissent cultiver et qu'ils plantent et avoir non seulement de quoi se nourrir, mais également vendre ce qu'ils cultivent afin de devenir autonomes.
Et la commémoration vient rappeler les besoins capitaux de ces derniers. Sa Majesté Yaya Doumba, l'amido de Johan.
L'effort qui doit être fait consiste essentiellement à revoir le plan de stratégie sur la santé, sur les structures sanitaires, scolaires et sur la gestion de l'environnement autour des camps.
Ce sont d'ailleurs là les trajectoires parmi tant d'autres sur lesquelles sont régulièrement orientées les actions humanitaires. Ngaoundéré, Oumarou Kadili, Siart.
À Mane Muzam, village situé à 23 km de la ville de Boulova dans le sud, l'effervescence a laissé place à l'espoir lors de l'Assemblée générale des filles IEM20. Ces femmes déterminées regroupées au sein de l'association OTEM 3 ont présenté un projet ambitieux construction d'une salle de fête à Eboulova qui pourrait bien transformer leurs conditions de vie. Entre solidarité et ambition, retour sur une rencontre marquée par la fraternité et l'engagement, et c'est avec Anissé Siestor et Sian de Certivi Sud.
Habituellement calme, le village de Manmezam a été le théâtre d'une effervescence particulière lors de cette assemblée générale. Entre espoir et détermination, les filles inventes du village éponyme aspirent à bâtir non seulement des projets, mais aussi et surtout des liens solides de fraternité. Julienne Eyenga Eya, fondatrice.
J'ai créé cette association il y a de cela 4 ans aujourd'hui. On a regroupé toutes les 5 amours. C'est la solidarité, l'entraide, l'amour entre les sœurs.
Otetemikomila, que l'on pourrait traduire par l'étoile des trois collines, est le nom évocateur de leur association connue sous l'abréviation OTEM 3. Cette fois-ci, elles se sont réunies à Manmezam pour présenter un projet ambitieux. La construction d'une salle de fête à Eboulova. La maquette dévoilée par l'architecte laisse entrevoir une imposante structure capable d'accueillir 500 personnes avec toutes les commodités nécessaires. Le coût estimatif des travaux s'élève à 100 millions de francs CFA. Sylvie Annette Abateu, présidente, et Sa Majesté Fleurette Maltite Abateu, membre d'honneur de l'association.
C'est une salle de fête où on va garder aussi les démunis, dont tout le monde va trouver son compte.
C'est un projet qui nous anime depuis pratiquement 2 ans. Là, nous sommes en train de vouloir nous mettre à la réalisation de celui-ci. Nous avons pensé qu'il nous faut des activités génératrices de revenus.
Fidèles à leur engagement de solidarité, elles ont également profité de cette occasion pour distribuer du riz, du poisson, de l'huile et d'autres produits indispensables de cuisine à toutes les femmes du village. En se séparant, elles se sont promis de transformer chaque pierre posée en un avenir meilleur pour leur communauté. Man Mezam, Anissé Sestoricienne, CR TV.
Financement de la rentrée scolaire, la question préoccupe les parents dans la ville de Bertois, tout comme sur l'ensemble de la région de l'Est. Tous adoptent des sources diversifiées pour garantir le retour des enfants à l'école. Certains recourent au crédit scolaire et d'autres se tournent vers l'épargne ou d'autres emprunts. Les détails dans son reportage d'Alain Roger Ngounadjou de CRTV Est.
Marie-Louise Tambesse ne se décarcasse pas en cette veille de rentrée scolaire. Pour cette mère de 4 enfants, tout a été préparé bien avant. pour garantir le bon retour en classe de sa progéniture.
La rentrée scolaire chez moi, ça ne se prépare pas seulement le jour de la rentrée. Petit à petit, par rapport aux moyens que nous avons, on achète déjà les cahiers, les livres pour que le jour de la rentrée, l'enfant soit prêt.
Ce n'est pas le cas pour Béatrice, en provenant de Yokadoma, qui est à la quête d'un crédit scolaire dans un établissement bancaire de la ville de Berthois.
Ça n'a pas eu lieu, parce qu'on vit les arriérés, nous a refusé. On ne sait pas comment faire. On va sauf que couper le plantain, vendre les arachides, vendre un peu de maïs pour supporter d'envoyer les enfants à l'école.
Le recours au crédit scolaire pour Joseph Andela est l'astuce la plus efficace pour subvenir aux dépenses liées à la rentrée scolaire.
Je me suis retrouvé dans une situation où j'avais des engagements. J'ai un enfant qui va à l'école, j'ai deux neveux que je devais assurer la scolarité et le salaire ne pouvait pas permettre à ce que je puisse pallier à tout cela, plus des fournitures et tout ce qui va avec. Il était donc nécessaire de prendre un crédit scolaire et cela m'a permis de résoudre la situation en question. Dès les premiers jours de la rentrée, tout le monde était satisfait.
Grâce à ses épargnes à la banque scolaire de sa tontine, les enfants de Janine Foucault iront à l'école dans de bonnes conditions.
Généralement, je prépare la rentrée scolaire au cours de l'année, quand les enfants sont même encore à l'école. C'est là où je commence. Quand j'ai un simple, je mets dans les banques des réunions pour attendre septembre. Si c'est que nous avons, je ne peux pas nous assurer pour inscrire les enfants à l'école, on emprunte dans les banques des réunions pour inscrire les enfants à l'école.
Malgré la tendance économique pas très favorable pour certains parents, toutes les stratégies sont mises en marche pour que dès le 9 septembre 2024, les enfants reprennent le chemin de l'école dans la région de l'Est. Berthois, Alain Roger Gounadjou, pour le Journal des Régions.
Vous écoutez le Journal des Régions sur le poste national de la CRTV. Insalubrité en parfum d'urine embaume la ville de Yaoundé et ses environs. La raison, les populations se soulagent en plein air. Et selon l'opinion publique, les femmes excellent dans ces attitudes inciviques et pollueuses de l'environnement. Joséphine Eneke de CRTV Centre fait le point de la situation dans ce reportage.
Mireille n'hésite pas à arborer un masque lorsqu'elle traverse l'allée qui mène à son domicile au quartier Mangui à Yaoundé.
Je suis souvent obligée de me protéger, sinon je vais arriver à la maison avec un ventre vraiment ballonné parce que c'est irrespirable, ça dégage une très forte odeur.
Sur cette ruelle, comme sur plusieurs de la région du centre, il n'est pas rare de voir les urines ruisseler, preuve que les populations, malgré les écriteaux d'interdiction et les toilettes publiques installées par les différentes mairies, continuent de se soulager à tous les coins de rue.
Les femmes qui consomment l'alcool chaque jour ici, mon mur est gâté, sale, à cause des urines, des bières. J'ai attaché même le tissu rouge pour effrayer même les jeunes.
Les personnes qui se mettent à uriner dans les espaces publics nous indisposent véritablement. Parce que tu ne peux pas t'asseoir des mines quelque part parce que tu seras gêné.
Le fait aussi d'arriver devant les toilettes publiques, tu vas peut-être présenter 1000 francs ou 500 pour 100 francs. On va te dire qu'ils n'ont pas la monnaie.
Les odeurs qui se dégagent de ces mixtions gênent et ont des conséquences sur la santé et l'environnement.
L'urine, c'est ce qu'on appelle en chimie l'ammoniaque. C'est un produit toxique. Donc, inhaler ces odeurs pose un problème de santé publique.
Avec les enfants qui jouent en bordure des routes et ont tendance à toucher la tête, toucher le ballon et se frotter le visage, ça peut augmenter le risque d'infection.
En guise de solution,
c'est la sensibilisation déjà au niveau des maisons. Les papas et les mamans doivent sensibiliser les enfants. Et puis, au niveau des établissements scolaires, sinon les gens tomberont malades et nous aurons des épidémies.
Les populations doivent faire preuve de civisme, alors que les pouvoirs publics sont en train de trouver des solutions, telles que l'installation des toilettes publiques supplémentaires, entre autres. Dans le centre, Joséphine Eneke, pour le Journal des Régions.
Depuis les temps anciens, l'utilisation de la main gauche a toujours suscité des réactions variées dans la société. Dans la région du Nord, les gauchers sont confrontés à des perceptions culturelles complexes qui se heurtent à la modernité. Mais comment les attitudes envers ces personnes ont-elles évolué au fil du temps? Tentative de réponse dans ce reportage de Hadidja Iyarchimé, stagiaire de l'Estique à Garoua.
Les gauchers ne sont pas les personnes différentes des autres. Ils sont les créatures de Dieu.
Souvent associés à des signes de malchance, certaines traditions considèrent que la main gauche est porteuse de mauvais présages, ce qui peut avoir des préjugés cachés ou difficiles à percevoir. Farid, étudiante.
À l'école, on se moquait de moi. Comment se fait-il qu'une fille peut écrire avec la main gauche?
Les rites locaux et les coutumes influencent profondément la vie quotidienne des gauchers. Certaines personnes les accueillent avec le désir d'apprendre d'eux et de pouvoir les comprendre avec une attitude positive. Mohamedou Yaouba, traditionnaliste.
Dans mon tribu, vraiment, c'est un signe de malchance. C'est pas bon.
C'est dur de créer certaines choses, mais c'est compliqué de s'y adapter dans la société. J'ai vu souvent certaines de mes parents au village brûler carrément la main gauche de l'enfant pour que l'enfant puisse utiliser la main droite. Et surtout pour la femme, c'est très mauvais. La main gauche, chez nous, c'est vraiment un signe de la malchance.
En Afrique, surtout chez nous, au Cameroun, plus précisément dans le Grand Nord, quand tu commences à écrire, tout le monde te regarde.
Cette stigmatisation a souvent conduit à des tentatives pour forcer les gauchers à utiliser leur main droite. Farid Béatrice.
Je suis gauchère dès mon enfance. Mes parents se sont battus pour que je change de main, mais ils ont vu que leurs efforts n'ont abouti à rien. Dans notre localité, une fille gauchère, que ce n'est pas bien, elle ne va pas trouver de mari. C'est un peu comme si c'est une malédiction.
Depuis la fin du XXe siècle, une prise de conscience croissante a vu les gauchers être acceptés et appréciés pour leurs traits particuliers. Abdourahman, enseignant.
La plupart des gauchers que j'ai rencontrés sont des gens doués et très intelligents. Les gauchers évoluent dans un monde où tout est pensé pour des droitiers. Les gauchers, ils ont un regard assez différent. Ils sont considérés comme des gens anormaux, les gens différents.
Ces gauchers, c'est comme les droitiers. Ils ont également un point de vue à donner, avec des traits créatifs, innovants et parfois valorisés. L'acceptation des gauchers varie grandement d'une culture à l'autre. Garoua, pour le journal des régions. Hadidja Yarchimé, stagiaire de l'Esti.
Rendons-nous à présent à Douala, dans le littoral, où le marché du vent de palme, communément appelé Matango, fait recette. À tous les coins de vente très animés, le nectar mousse fait le bonheur des consommateurs, tant nationaux qu'étrangers. Vendeurs et consommateurs s'expriment dans ce reportage de Léonie Fouda, stagiaire à Sierteville Littoral.
La vente du vin blanc, communément appelé vin de palme, est une activité qui a su coller à la peau de Mama Anna depuis des années.
Moi, je m'en sors parce que je ne loue pas l'espace. Je suis chez moi. Pour l'instant, je m'en sors.
Une activité dont les difficultés font partie intégrante.
Mon vin vient vers Souza. Je vends comme le livreur m'apporte. Je ne sais pas s'ils font autre chose après. En saison sèche, j'ai assez de clients. À des moments, même, il y a manque de vin. Mais en saison de pluie, beaucoup de gens se plaignent. Ils se disent que l'eau s'infiltre dans les troncs.
Un milieu dans lequel plusieurs se détendent et passent la plupart de leur temps. Olivier Berlin, client.
Quand je prends de ce vin de palme, je n'ai pas de problème de santé. Par rapport à ailleurs, c'était la catastrophe.
À la question de savoir s'il y a une différence entre un vin blanc du village et celui de la ville, Julien Tabichimit s'exprime.
Le vin blanc vendu au village est généralement produit de manière artisanale avec des méthodes traditionnelles qui préservent son goût original. Il est souvent consommé localement, ce qui limite les besoins de conservation à long terme et réduit les tentations de modifier les produits. À différence du vin blanc vendu en ville, peut être souvent dilué avec de l'eau pour augmenter la quantité disponible à la vente. D'autres substances ou additifs peuvent être rajoutés pour stabiliser le produit, améliorer son apparence, le rendant moins fort et souvent moins savoureux que celui du village.
Malgré la vente de ce vin blanc dans la ville, il faut retenir que la meilleure production de cette boisson reste en milieu rural. Douala Léonie Fouda, CRTV pour le journal des régions.
Et puis, organiser des matchs de gala devient de plus en plus tendance chez les jeunes. Mieux encore, une tradition. Anniversaire, retrouvailles, simple plaisir. Les occasions ne manquent pas pour motiver l'organisation d'un tel match. Mais pourquoi cette pratique est autant appréciée des jeunes? La réponse, c'est avec Grace Mbala, stagiaire de l'Estic.
Les matchs de gala sont les stars du moment en milieu jeune. Que ce soit pour des anniversaires, des retrouvailles entre amis de longue date ou encore par simple plaisir, les raisons qui motivent l'organisation de ce genre de match ne manquent pas. Patrick Némoin.
On n'organise pas seulement les matchs de gala pour les fêtes. On peut organiser pour des anniversaires, pour une fin de formation, peut-être à l'école lorsque nous sommes tous en terminale. On peut dire que bon voilà, on a réussi le bac et il faut qu'on fasse un match de gala. Il y a aussi les matchs de gala qu'on peut faire à l'hommage d'une personne. Moi, par exemple, lorsque mon grand-père est mort, on a fait un match de gala à son honneur.
Les jeunes en creux ont trouvé dans cette pratique une véritable source de rassemblement et de renforcement des liens amicaux autour du ballon. Aurélie et Patrick.
C'est vraiment un événement important car ça permet de rassembler les jeunes, ça les occupe, ça fait en sorte qu'il y ait de nouvelles rencontres. Tout le monde est gay en fait.
Cette chose-là permet aussi que l'on puisse passer du bon temps. Que ce soit pour une cause de joie, de tristesse, on aime quand même parce que passer du temps ensemble, il n'y a rien de plus mieux.
De plus en plus organisées en milieu jeune, ces rencontres accueillent à chaque occasion du beau monde. Junior Menunga.
Le match de gala, c'est pour la beauté des spectateurs. Quand ils viennent voir le match, c'est merveilleux parce que tout le monde se lâche.
Ces compétitions deviennent au fil du temps une tradition populaire chez les jeunes dans les milieux scolaires, universitaires ou même sportifs. Car ils offrent aussi une occasion de rivaliser de manière conviviale entre amis.
Et c'est sur ce reportage de notre stagiaire Grace Mbala que se referme le journal des régions avec à la technique Octavie Tomta. La réalisation était assurée par Patrick Oscarafan avec la collaboration des stagiaires de l'ESTIC. À ce micro, je suis Djuleika Omar Waliou. Mesdames, messieurs, merci. Restez à l'écoute des programmes de Cameroun Magazine sur le poste national de la CRTV. À demain, Armand Nonga.